enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Regardons ensemble dans la parole de Dieu au livre du prophète Ésaïe, chapitre 61. Nous allons lire le passage dans quelques minutes, mais trouvez Ésaïe, chapitre 61, pour ce premier message d'une série qui va durer toute l'année, les dimanches soirs de 2007. Découvrez et recevez l'onction. J'aimerais débuter cette série de messages avec ces mots de l'apôtre Paul, et je prie qu'ils résonnent, qu'ils puissent être imprimés dans vos cœurs par la main, par le Saint-Esprit. Alors que l'apôtre Paul a écrit, que Dieu a écrit à travers lui, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Je veux dire une autre fois, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La foi chrétienne se différencie de toute autre croyance ou religion parce qu'elle n'est pas basée sur un set de pensées ou de doctrines ou de philosophies. Elle n'est pas possible seulement, elle ne repose pas sur du parlage, sur des conversations, sur des communications de principes, de philosophies, d'énoncés, de dogmes. La foi chrétienne, l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu n'est pas en parole, il est en puissance. La foi chrétienne est différenciée de toutes les autres en ceci. Nous avons cette étape, elle repose sur la foi et sur la réalité et sur l'assurance que le Dieu vivant est venu sur terre, nous a visités, est mort pour nous, est ressuscité et qu'il est vivant maintenant et que le même esprit qui l'a ressuscité est désiré par le Père d'être répandu sur tous les êtres humains. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des principes seulement. Le royaume de Dieu, c'est un Dieu vivant et puissant qui répond à nos prières, qui intervient dans nos vies et qui lui seul peut nous rendre capables de ce qui nous serait complètement inaccessible autrement que par sa puissance. L'apôtre Paul dit, c'est le royaume entier, c'est notre message entier qui repose là-dessus. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Chaque chrétien ici a besoin d'être imbibé de cette pensée que tout le message de Dieu en entier repose sur la capacité divine que Dieu donne, que sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez rien. Par moi-même, je ne peux rien. Je suis réduit à rien par moi-même. Et s'il y a une seule chose que la maturité chrétienne produit en nous, que les années de vie chrétienne produisent en nous, c'est que nous n'avons absolument, nous sommes morts à toute confiance dans notre propre chair. Mort aux méthodes humaines, mort à nos résolutions humaines, absolument lucide tant qu'au fait que je ne puis rien. Malgré les exploits d'hier ou les victoires d'hier, je ne peux rien aujourd'hui à moins que le souffle de Dieu m'en donne la capacité. Je peux rien par moi-même. Mais s'il y a une chose que la maturité chrétienne nous apprend, c'est qu'il y a aussi absolument aucune limite à ce qui m'est accessible par la puissance de Dieu. Je ne peux rien par moi-même, mais je peux tout par l'onction qui me fortifie. Quelqu'un devrait dire amen. J'aimerais vous dire qu'en 2007, nous avons besoin de marcher dans la puissance, d'être animé par l'onction et la puissance, de le louer dans la puissance, de l'adorer, de le chercher, de le prier, de marcher, d'être mu, d'être poussé, d'être motivé, d'être protégé, d'être gardé, d'être porté par la puissance de Dieu. Il n'y a pas une particule de moi, il n'y a pas une partie de moi, il n'y a pas une fraction de moi qui croit que l'Église Nouvelle Vie peut accomplir quoi que ce soit dans cette prochaine décennie, si ce n'est par la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons besoin, nous sommes dans un siècle qui va être un siècle de paix, dans les temps de la fin qui sont prophétisés dans lesquels nous vivons. Nous vivons une époque de grands paradoxes et d'intensité. Un paradoxe de contraste saisissant, un paradoxe d'accroissement et d'intensité à toutes sortes de niveaux. Je crois que nous vivons dans une époque où l'iniquité et la méchanceté est particulièrement violente et sale. où la boue qui nous entoure est particulièrement souillée, est particulièrement, où la tentation est particulièrement vive, où l'opposition à Dieu, je vous prophétise que dans les temps de la fin dans lesquels nous vivons, c'est seulement l'onction et la puissance de Dieu qui va nous permettre de percer. Et que ça va être des jours de grand contraste. Je vous prophétise par la foi que dans les prochains, si Dieu tarde sa venue, que dans les prochains 14 ans de l'Église Nouvelle Vie, nous allons voir une explosion, comme dans les dernières années, une explosion exponentielle du nombre de personnes, un accroissement du nombre de personnes qui vont donner leur vie au Seigneur. Contraste saisissant. Et vous allez aussi voir un accroissement de la persécution, du mépris, de l'opposition. Paradoxe, multitudes vont se convertir. Je crois que dans les prochains 15 ans, nous allons faire des percées dans les médias, dans le monde séculier, de manière, de toutes sortes de places, on va s'établir avec un témoignage où on n'était pas là auparavant. Mais en même temps, nous allons vivre une opposition, nous allons vivre une dureté autour de nous que seule la puissance de Dieu peut percer. Cette semaine, quelqu'un m'a envoyé une information sur un site internet. Puis je donne pas de. Puis c'est une émission qui a même passé à la télévision. C'est l'émission La Fosse aux Lyonnes qui ont une rubrique internet et ils ont souligné ce site. Et par la suite, je suis allé voir sur un site d'information. Puis il y a des dizaines, si c'est pas centaines d'émissions de télévision et bulletins de nouvelles à travers les États-Unis surtout. Et maintenant le Canada anglais et maintenant le Québec, La Fosse aux Lyonnes, c'est la Radio-Canada qui parle de ce site internet qui est un de ceux qui se développe le plus actuellement. C'est un site internet, je veux pas y donner d'attention, vous n'avez pas besoin d'aller voir, vous n'avez pas besoin de passer des heures là-dessus, il n'y a rien d'édifiant, mais c'est particulièrement saisissant. Je crois que c'est des choses qui n'auraient pas été présentes de 5 ans, de 10 ans. Bien sûr, l'internet n'existait même pas. Mais je crois qu'il y a une manifestation dans ce site. C'est un site qui invite des milliers de personnes à prendre le Blasphemy Challenge. Et c'est un site qui est fait par des gens qui opposent la foi chrétienne et qui ont pris un verset dans la Bible qui dit que les péchés vont être pardonnés, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et il invite des milliers de personnes à aller online et à déclarer en sacrant, en blasphémant, en étant le plus vil possible, « Moi, je blasphème le Saint-Esprit. Je nie l'existence de Dieu. Je déclare que Dieu n'existe pas. » Et lorsque tu vas sur le site, tu peux pas t'empêcher de pleurer en le lisant. Tu vois des milliers de personnes, surtout des jeunes, qui vont là, ils enregistrent. Et le défi, écrivez à tel endroit, vous allez recevoir un CD gratuit. Que nous voulons votre âme. Allez-y et déclarez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, blasphémer, dire ce que vous voulez. Mais une chose importante, il faut absolument que vous disiez, je nie l'existence de Dieu. Je nie l'existence de cet esprit. Je blasphème le Saint-Esprit. Et si vous le faites, on va vous envoyer un CD gratuitement. Et des milliers et milliers de jeunes qui sont là et qui y vont. Et certains d'entre eux, lorsque tu regardes certaines des images, des personnes qui ont pris, poussé l'audace, poussé l'aveuglement à aller jusque dans des églises évangéliques, qui ont filmé, t'entends les chants de louange en arrière, sont venus dans une réunion comme ce soir, se sont mis debout en arrière pendant la louange pour dire, je suis ici et je blasphème le Saint-Esprit. Je déclare fièrement que Dieu n'existe pas, que le Saint-Esprit n'existe pas. L'apôtre Paul a dit que notre foi doit reposer non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il a dit ceci. Il a dit, afin que votre foi ne soit pas fondée, ne repose pas sur les perceptions humaines, sur les mentalités des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que ce monde ne connaît pas. Les princes de ce siècle sont réduits à l'impuissance. Nous communiquons la sagesse de Dieu que les princes de ce siècle n'ont pas connue, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je vais vous dire ceci. Je ne crois pas, je ne veux pas entrer dans tout le détail de l'enseignement là-dessus, je ne crois pas que tous les jeunes qui font cette chose-là, dans leur ignorance et leur aveuglement, ont péché contre le Saint-Esprit et qui sont damnés à jamais. Je crois que si j'avais le temps, je prendrais une heure vous expliquer ce que je crois qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, mais je ne crois pas que c'est un jeune par ignorance, par défi, qui s'est fait remplir la tête puis qui dit une chose comme ça. Mais il y a une indication là-dedans que cette génération, l'accentuation du mépris qui nous entoure, l'accentuation de cette audace, cette absence totale de crainte de Dieu, appelle l'Église à ceci. Dans ce monde, ce n'est pas avec des discours, ce n'est pas avec juste une religion stérile et passée de génération en génération qu'on va se tenir et qu'on va communiquer à ce monde. Ce que ce monde a besoin, c'est un peuple qui est rempli d'une véritable puissance. Mon discours, mon message, ma vie, ma communication n'est pas sur les 20 discours de la sagesse humaine, mais rempli de vrais signes, de vrais prodiges, de vrais miracles, de vraies manifestations, de vraies actions que l'homme verra que c'est indéniable que c'était l'Esprit de Dieu qui a agi. Je vais vous dire, Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tourmentés, allez-vous en pas à la maison, vous tordant dans les mains, en disant c'est terrible, c'est fini. Regarde ce site-là, c'est terrible, c'est la fin du christianisme. À toutes les époques, Internet est une manifestation moderne. À toutes les époques, le verset qu'on a lu dit, les princes de ce monde sont là, les plus grands de ce monde sont complètement contre, mais nous, ils seront réduits à l'impuissance. J'aimerais vous dire qu'avec chaque génération, il y a eu des gens qui se sont levés. Avec des livres, à l'époque, c'était les livres. Avec différents médiums pour dire, c'est fini, on est contre Dieu, Dieu est terminé. Essayer de, et même avec un orgueil fou, essayer de se lever pour dire, moi, je vais être la voix qui va réveiller le monde et faire connaître au monde que Dieu n'existe pas. Toutes les époques, en ont eu. Et Dieu, par sa puissance, l'onction de Dieu, par sa puissance, prend plaisir à manifester sa gloire, à la mesure de du dernier blasphème humain, la bénédiction et l'onction de Dieu est plus grande. Lorsque dans les années 60-70, il y a eu des dizaines et centaines de livres qui ont été écrits et de personnes comme Josh McDowell qui se sont levées. Lorsque tu lis sa biographie, il était brillant, il avait prévu, il faisait des débats sur les campus universitaires pour prouver l'athéisme. Et lui a dit, je vais faire une thèse de doctorat en philosophie. Il avait passé sa maîtrise, était rendu à son doctorat. Je vais faire ma thèse de doctorat et je vais prouver que le christianisme, c'est une fraude. Je vais prouver que la résurrection est fausse. Je vais exposer les folies du christianisme. Je vais exposer tout ça. Je vais devenir célèbre. Je vais celui qui a mis fin au christianisme en Amérique. Alors qu'il a fait ses études, beaucoup d'entre vous connaissez son témoignage, alors qu'il a fait ses études, étudiant toute l'histoire, le Saint-Esprit. Ma mère aurait dit, l'attendait dans le détour. Ma mère a dit, toi, moi je t'attends dans le détour. Le Saint-Esprit l'attendait dans le détour. Et Josh McDowell, en faisant les études, s'est converti, a donné sa vie à Dieu, est devenu quelqu'un qui a écrit des livres qui fortifient la foi. Et son ministère premier est d'aller sur les campus universitaires. Et récemment, ils ont célébré 30 ans de ministère de Josh McDowell. Et au-delà de 100 000 étudiants ont donné leur vie au Seigneur sur les campus, alors que cet homme témoignait de la foi. Si on dit rapidement aux États-Unis, aux Américains, un nom. Donnez-nous un nom de quelqu'un qui représente être anti-Dieu. La majorité des Américains des années 80-90 vous dirait Madeleine Murray O'Hare, qui était la femme qui a, elle, à elle seule, elle était une athée qui a décidé d'amener la Cour suprême avec les avocats qui l'appuyaient. Elle a actionné, si je peux m'exprimer ici, elle a eu une action contre la Cour suprême et elle a réussi à faire bannir la prière et la lecture biblique de toutes les écoles des États-Unis. Elle a fondé une organisation, elle a consacré sa vie à l'athéisme et à vomir sur le christianisme. Elle a dit, l'œuvre de ma vie va être que lorsque je vais aller en terre, il y aura plus d'église en Amérique, il y aura plus de gens qui vont croire à aux balivernes de la foi. Et elle a eu un fils et elle l'a, dès son plus jeune âge, imaginez un garçon grandissant là-dedans, endoctriné, si je peux m'exprimer ainsi, jour après jour dans l'athéisme et le mépris de l'église et tout ça. Et là, vers l'âge de 15-16 ans, il était toxicomane, il était pris, il était dans la drogue, était dans tout ce que vous voulez. Elle l'a laissé. Elle a dit, moi, j'ai une mission à faire pendant des années. Il a été ballotté d'un bord à l'autre. C'est une famille chrétienne qui l'a recueilli. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a été délivré par Dieu. Et ce jeune homme est devenu un prédicateur, un évangéliste qui appelle les foules depuis une vingtaine d'années. Il a écrit un livre, un best-seller qui est partout aux États-Unis qui s'appelle My Life Without God, The Rest of the Story. Et une des particularités de son ministère, il a une onction dans les écoles secondaires. Il va parler aux jeunes et confesser la foi. N'ayez pas peur du site Internet. Il y a une onction qui est plus grande. Il y a un appel de l'onction de Dieu sur chacun d'entre nous. Quelqu'un devrait dire amen. Alors que nous allons découvrir ensemble, découvrir et recevoir l'onction, c'est important, très simplement en débutant, de bien comprendre ce que l'onction n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communiquées. Il y a du folklore évangélique, il y a du folklore pentecôtisant, il y a du folklore de l'onction partout autour de nous. Alors, je vais être très simple, mais très direct avec vous et simplement partager en introduction ce que l'onction n'est pas. J'aimerais vous dire que l'onction n'est pas le ton de voix ou une expression extérieure. Dans certains cercles, si le pasteur parle comme ça, c'est l'onction. L'onction, c'est pas un ton extérieur. C'est pas parce que je parle fort. Moi, je peux dire ça. Je suis quelqu'un qui a été connu pour lever la voix une fois de temps en temps. L'onction n'est pas dans le ton de la voix et pas dans les variations de ton. L'onction n'est pas dans un ton ou une chose extérieure. Il y a une face. Au regard, on dirait qu'il y a l'onction. L'expression extérieure ou une manifestation ou un geste. L'onction n'est pas dans un ton de voix ou une expression. L'onction n'est pas dans les habiletés ou les talents humains. Lorsque Céline chante, on peut avoir le frisson. Parce qu'elle chante, le poil, elle lève ses bras, c'est en or. Et c'est vraiment, ouf, ça chante, Céline. L'onction n'est pas dans les émotions, dans les talents humains. Les prédicateurs peuvent avoir des talents, des chanteurs peuvent avoir des talents. Mais ça ne transforme pas les vies, ça ne change pas les êtres humains. L'onction, ce n'est pas les habiletés, les talents. On ne peut jamais se reposer sur quelque habilité ou talent que Dieu nous a donné. L'onction, ce n'est pas le professionnalisme ministériel. Tu peux avoir des réunions qui sont organisées au quart de tour, que tout est parfaitement synchro et tout est parfaitement coïncidé. Et vous savez que nous ne prônons pas le n'importe quoi. Nous croyons en l'excellence au service de Dieu et d'offrir notre meilleur à Dieu. Mais tu peux avoir, c'est très important, c'est une ligne très importante, c'est une compréhension très importante. Nous faisons notre meilleur, nous voulons offrir le meilleur à Dieu. Mais nous ne nous confions pas, nous mettons pas notre confiance dans notre préparation des réunions parce que tu peux avoir une réunion parfaitement préparé, qui est parfaitement plate, qui est parfaitement sans intervention de Dieu. Nous amenons tout le mieux de nos préparatifs pour continuer à le faire au mieux de nos cœurs, parce que la bénédiction n'est pas non plus sur le n'importe quoi. La bénédiction n'est pas non plus sur le n'importe quoi, je te pousse comme tu vas, ou vous connaissez l'expression, et puis on le fait n'importe comment, et on le fait tout croche, puis là, Dieu va être là, l'onction est là. L'onction n'est pas sur les pains rassis qu'on offrirait tout croche. L'onction n'est pas sur le professionnalisme. L'onction, c'est que j'amène ce que j'ai au mieux de mon cœur, mais j'ai confiance qu'alors que j'amène mes pains et mes poissons, c'est la main de Dieu qui fait la multiplication. Quelqu'un devrait dire amen. L'onction, ce n'est pas le professionnalisme ministériel. L'onction, c'est pas un titre ou une position ecclésiastique. L'onction, ce n'est pas la reconnaissance d'une organisation religieuse. Tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir la carte dans ton portefeuille, tu peux avoir l'affiliation. Nous sommes à l'ébauche, qu'on va vous partager, pas à l'ébauche, mais dans les fondations qu'on va vous partager en 2007, de la création d'un mouvement où des centaines d'églises vont se joindre. Mais que personne n'ait d'illusion que parce que tu appartiens à ce mouvement-là, tout à coup, tu as une onction. L'onction, ce n'est pas une reconnaissance ecclésiastique. L'onction, c'est une communion de personne par personne, individuelle avec Dieu, où Dieu décide de déverser sa grâce à travers nous. Risquez amen. L'onction, ce n'est pas non plus un mysticisme où les vies ne sont pas transformées. Ce n'est pas une poursuite d'expériences charismatiques sans le fondement de la parole. Ça a besoin d'être dit. Dans certains cercles, plus c'est weird, plus c'est l'onction. Plus c'est bizarre, plus c'est l'onction. Plus c'est quelque chose que je n'ai jamais vu avant, plus c'est l'onction. Plus j'ai jamais vu ça, plus c'est l'onction. Pas du tout. La poursuite d'expériences une après l'autre qui n'est pas fondée sur les Écritures n'est pas la poursuite de l'onction. Nous voulons être un peuple qui dit, nous ne voulons absolument jamais rien limiter ou manquer de l'expérience de l'être humain avec la personne du Saint-Esprit telle qu'expliquée et telle que décrite et telle que révélée dans cette parole. Et ça va prendre une vie entière. On ne pourra jamais épuiser tout ce que Dieu veut nous faire révéler de neuf et nous faire découvrir et vivre de neuf à propos du Saint-Esprit dans sa parole. Mais en même temps, nous croyons que la révélation entière de Dieu est dans cette parole. J'espère que vous êtes avec moi. Mais la position de cette Église est, Seigneur, nous voulons tout, absolument tout, de toi et de ton esprit, de ton onction qui est dans ta parole. Et nous ne voulons rien qui est à l'extérieur de la parole de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen » ce soir et applaudir une onction basée sur les Écritures. L'onction n'est pas, on va continuer les prochaines semaines, mais l'onction n'est pas imitée ou reproduite. Dans un des prochains messages, je vais donner un message où il y a 7 avertissements bibliques sur l'onction. Mais une chose importante en intro, c'est que l'onction ne peut pas être imitée et l'onction n'est pas limitée. Il dit dans Exode 30, par exemple, « Tu oindras Aaron et ses fils pour l'œuvre et le service de Dieu. C'est une onction sainte que je désire répandre de génération en génération. » Voulez-vous dire à voix haute, de génération en génération? Mais en même temps, quel équilibre magnifique. De génération en génération, mais qui ne doit pas être reproduite ou imitée. Quiconque tentera d'en composer une semblable sera retranché du peuple. C'est une onction qui va se poursuivre de génération en génération, mais que tu ne peux pas imiter. Qu'à chaque jour, à chaque génération, à chaque semaine, à chaque année, Dieu a quelque chose de frais. Et la nature humaine est de prendre la façon dont Dieu a déversé son onction hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et d'en faire une religion. Les personnes les plus religieuses, parfois, sont ceux qui croient qu'ils sont les moins religieux, les plus flyés, sont légalistes à propos de leur flyage. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais dire à tout le monde ici, c'est merveilleux comment Dieu a agi hier à Nouvelle Vie. Mais on ne peut pas reproduire l'onction d'hier. Dieu a quelque chose de frais pour vous aujourd'hui. C'est une tradition, c'est quelque chose qui est c'est très, très, très humain. Je vais vous faire entrer une seconde à l'intérieur de notre monde Nouvelle Vie ministériel. Vous savez, une des choses qu'on fait à Nouvelle Vie qui est déplorable et terrible, lorsque Dieu donne un chant, un conducteur de chant qui nous apprend un nouveau chant, puis il est bon. Ah, il est hot. On sent tout de suite les gens. Il y a une combustion. Les gens sont touchés. Les gens sont bénis. Savez-vous ce qui se passe habituellement? On le brûle. On le chante ad nauseam. On le chante la semaine d'après. On le chante la semaine d'après. On le chante la semaine d'après. Jusqu'à temps qu'on, en bon québécois, on n'est plus capable de le voir. On le brûle. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit, t'as tellement hâte la semaine passée lorsque je chantais combien Dieu est grand. Faut qu'on le chante cette semaine. Faut qu'on le chante la semaine prochaine. Laissez-moi vous dire, l'onction, elle est de génération en génération. Mais vous n'avez pas besoin de vous ennuyer de l'onction d'hier ou soupirer pour l'onction d'hier. Car l'onction de Dieu d'aujourd'hui est belle. Elle est fraîche. Elle est nouvelle. Et elle va vous émerveiller. Quelqu'un devrait dire amen. L'onction ne peut pas être imitée et l'onction n'est pas limitée. Ne peut pas être limité. Je ne le ferai pas ce soir, on va regarder juste quelques-uns en intro. Mais il y a plus de 50 utilisations et applications dans la typologie de l'Ancien Testament sur l'utilisation de l'onction qui était si variée et si révélatrice. L'onction n'est pas seulement pour le prédicateur ou le chanteur ou l'enseignant ou l'apôtre ou le prophète ou l'évangéliste. L'onction est variée. Elle est pour toutes les tâches de nos vies. Combien est-ce qu'il y a une mère ici qui savent que ça prend l'onction pour être une maman? Dites amen. Ça prend l'onction pour être un papa. Ça prend l'onction pour être un mari. News flash à tous les gars qui n'habitent pas la planète Terre, mercredi, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que je peux vous sauver la vie, messieurs? Chocolat. Fleurs. Gentillesse. Compliments. T'aurais-tu maigri, toi, des genres, des choses de ce genre-là? Est-ce que je peux vous sauver la vie, que vous n'ayez pas besoin d'une résurrection dimanche prochain? Faites quelque chose de spécial. Puis je parle pas des fleurs au dépanneur avec une Coffee Crisp. Est-ce que vous me comprenez? Combien est-ce qu'il y a de personnes ici qui savent que ça prend l'onction pour être un mari? Ça prend l'onction pour être un papa en 2007. Ça prend l'onction pour être une maman. Ça prend l'onction pour pardonner. Ça prend l'onction pour voir l'avenir. Ça prend l'onction pour être éclairé afin de voir les pièges de l'ennemi. Ça prend l'onction dans tout ce que nous faisons. On va le découvrir dans les prochaines semaines. L'onction n'est pas imitée, mais elle n'est pas limitée non plus. C'est pas Pasteur Claude et l'équipe sur le stage qui a besoin d'onction. C'est chaque homme et femme ici qui a besoin d'être assoiffé pour l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un risque à amen et applaudit la variété de l'onction que Dieu veut répandre. L'onction, c'est le débordement, une définition. L'onction, c'est le débordement divin de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain qui est consacré à Dieu à travers une expérience sincère, continuelle et quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ qui lui permet de vivre une abondance spirituelle renouvelée, un service chrétien surnaturel, un caractère chrétien véritable, authentique, une satisfaction et un bonheur qui le rend capable d'un impact éternel sur son entourage et sur le monde. L'onction, c'est le débordement divin de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain qui est consacré au Seigneur à travers une relation personnelle, une expérience sincère, continuelle, quotidienne avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui permet de vivre une abondance spirituelle. Dans les mots hébreux et grecs pour onction, il y a un thème d'abondance, d'une huile abondante qui est déversée. Une abondance spirituelle qui est renouvelée, un service chrétien qui est surnaturel, un caractère chrétien qui est véritable, une satisfaction et un bonheur authentique qui le rend capable d'un impact éternel sur son entourage et sur le monde. Nous allons regarder ensemble notre texte et nous allons simplement ouvrir. C'est une invitation, c'est un appel, c'est un message d'intro qui, j'espère, va vous donner soif et faim pour toute l'année ensemble, alors que nous allons découvrir et recevoir l'onction. Ésaïe, chapitre 61, les versets vont apparaître à l'écran. Mais les premiers versets, les versets 1, les portions de 1 à 7, nous lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur délivrance, pour proclamer une année de grâce ou une année favorable de la part de l'Éternel. Le verset 3. Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, leur donner de la splendeur au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, des arbres solidement plantés dans la maison de Dieu. Des plantations de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Là où il y avait des ruines, ils vont rebâtir. Ils relèveront ce qui était des décombres. Ils rénoveront des villes désertes, dévastées, qui avaient été dévastées. Ils relèveront ce qui avait été dévasté pendant des générations. Et le verset 7. Au lieu de la honte, vous aurez une double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi la double portion dans leur pays et leur joie sera éternelle. Vous proposez que l'onction dans votre vie en 2007, c'est l'onction afin de consoler et de libérer les captifs. L'onction afin que nous puissions communiquer une bonne nouvelle. Et l'onction afin de commencer et de construire quelque chose de beau, de neuf et d'éternel. Serrez le bras de la personne à côté de vous et dites-lui, j'ai besoin de l'onction. Dites ça aux gens qui sont autour de vous. J'ai besoin de l'onction. L'onction pour guérir les cœurs brisés et proclamer aux captifs leur libération. Afin qu'on appelle, on va appeler des piliers pour l'Éternel, ceux qui étaient dans le deuil. Parce qu'ils vont avoir été libérés, puis ils vont le servir à la mesure de sa splendeur. Une onction afin de consoler et de libérer des captifs. Et toutes les maladies qu'il peut y avoir autour de nous et tous les millions de dollars qui s'accumulent pour la recherche, pour laquelle nous sommes reconnaissants. Il y a toutes sortes d'épidémies. On semble que chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui combat un cancer physique. Mais il y a une épidémie qui touche des millions de gens autour de nous et des centaines de personnes dans ce lieu, des dizaines de milliers qui vont entendre ce message par l'Internet et par la radio. Une épidémie qui touche les gens de tous les âges et qui les frappe comme dans aucune autre génération auparavant et dont la province de Québec est un des endroits où cette épidémie sévit le plus sévèrement et de manière la plus meurtrière dans le monde entier. Dans ce monde dans lequel nous vivons de modernisme, où l'être humain se croit tellement au fait, semble tellement avoir, pense avoir toutes les ressources et toutes les réponses, et où la connaissance est à son zénith, et où on pense avoir une explosion de connaissances, et où la psychologie humaine n'a jamais autant connu, et où toutes les ressources des êtres humains semblent être si grandes dans ce pays d'abondance dans lequel nous vivons, il y a une épidémie autour de nous de cœurs brisés, de personnes qui souffrent à l'intérieur, de personnes qui sont en dépression, qui sont en burn-out, qui sont en épuisement, de personnes qui souffrent de crises d'angoisse, que le médecin peut leur faire un examen de la tête aux pieds. Il n'y a rien qui se mesure dans une éprouvette. Il n'y a rien qui peut être mesuré par un thermomètre. Il n'y a rien qui apparaît sur aucun appareil. Mais la personne souffre de crises d'angoisse, de panique. La personne, lorsque nos dames vont visiter l'hôpital Sainte-Justine, il y a une aile qui est pour les cancéreux. Il y a une autre où c'est des jeunes leucémiques. Il y a une autre où c'est des maladies osseuses. Il y a une autre où c'est des maladies du rein. Et lorsque tu arrives dans une section où tu as des jeunes filles, tous les autres ont des maladies qui les amène à la mort, qu'on combat à travers tous les soins. Mais il y a une section où le nombre est toujours grandissant. Il y avait un documentaire cette semaine, un reportage cette semaine, d'une section de Sainte-Justine qui est agrandie pour des jeunes femmes en particulier, des jeunes hommes, mais des jeunes femmes en particulier qui sont anorexiques ou qui sont boulimiques, qui sont en danger de mort pour quelque chose qui est dans leurs esprits et dans leur cœur. Ils se laissent mourir de faim. La peau et les os, et ils se regardent, tu les regardes dans la glace, ils sont émaciés, en train de mourir, leur cœur va arrêter, ils vont boire une soupe ou manger un fruit et courir pour aller se faire vomir, convaincus maintenant qu'ils sont en train de ne s'aiment pas l'image, entièrement dans leur psyché, entièrement dans leurs esprits, dans leur cœur. Le prophète Ésaïe avait vu prophétiquement une époque comme celle qu'on vit en ce moment. Lorsqu'il a écrit dans Ésaïe chapitre 1, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé tout ce qui vient de lui. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives qui n'ont pas été guéries par l'huile de l'onction. C'est une description du monde dans lequel nous vivons. Et Jésus arrive au milieu de cette humanité et il dit ces mots, « Ne pleure pas ». Dans Luc, dans l'Évangile de Luc, nous avons cette scène où la Bible nous dit que Jésus a rencontré celle qui est appelée la veuve de Nain. Le texte va apparaître à l'écran. Et vous avez cette scène où Jésus arrive, puis une procession funèbre qui sort de la ville. Et la Bible nous dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dirent, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Nous avons une dame qui a vécu deux tragédies successives. La première, elle est veuve. Et dans le contexte du Nouveau Testament, la femme est extrêmement dépendante de son mari. Elle était socialement, économiquement, elle n'a plus rien au monde. Elle est en danger de devenir une itinérante, d'être à la rue. Tout ce qui lui reste, c'est son fils. On ne sait pas les conditions, s'il y a eu beaucoup de temps entre les deux, entre le deuil de la perte de son mari et la tragédie qui la fracasse alors qu'elle perd son mari. Deuxième coup qui est frappé sur elle, elle perd son fils. Et la procession de mort sort de la ville. Et cette dame représente, et la réaction du Seigneur représente la nôtre aussi. Il y a dans cette ville, il y a dans cette province, il y a dans cette salle, il y a dans ce lieu ce soir des hommes et des femmes qui sont comme la veuve de Naïn. Et humainement, lorsqu'on voit tant de souffrance, les gens de l'équipe de soins pastoraux de l'Église Nouvelle-Vie, il y a des gens qui souffrent tellement. Notre humanité, on est sans cesse bouleversés. Toujours quelque chose en nous qui veut nous faire dire « pleure pas ». Humainement, avec toutes les limites de tant de souffrances humaines. Combien de pasteurs ici, on a vécu après des rencontres avec des hommes ou avec des femmes, des moments où on fait juste fermer notre porte, puis on va devant Dieu, puis dire, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur. Il y a des cas, il y a des personnes qui restent dans nos pensées, des couples qui restent dans nos pensées pendant des jours, des semaines à venir. C'est pas une job qu'on fait. Et souvent, il y a cette humanité en nous qui dit, ça se peut pas, tant de souffrances humaines. Mais comprenez bien la différence entre le christianisme et n'importe quelle autre philosophie, et entre Jésus-Christ et nous en tant qu'être humain. Comprenez bien la différence. Lorsque Jésus dit la voix, il est ému de compassion pour elle. Il s'approche du cercueil, il la touche, il touche le cercueil, il dit ne pleure pas. Moi je dis ne pleure pas avec toutes mes limites humaines, mais Jésus le dit avec toute la force de son onction, que lorsqu'il dit ne pleure pas, c'est qu'il a la capacité de guérir le cœur brisé, de créer quelque chose, d'apaiser la douleur et de ressusciter l'âme d'un être humain. Quelqu'un devrait dire « Amen ». L'onction. Il y a tellement de choses qu'il aurait pu dire lorsqu'il a annoncé son ministère sur cette terre. Mais lorsqu'il a ouvert le livre, il a pris le texte d'Ésaïe. Il n'est pas venu, lorsqu'il a ouvert son ministère dans Luc chapitre 4, c'était pas en disant « Voici l'Esprit sur moi, puis on va bâtir des églises, et on va bâtir des empires, et on va faire des grands développements, et on va avoir des doctrines que vous allez apprendre. » Il s'est levé, puis il l'a amené à l'essence. Elle dit, si je suis ici, l'onction est sur moi et va être sur mon peuple afin de guérir des cœurs brisés, afin que des êtres humains en miettes puissent venir à moi et être rebâtis par la main de Dieu. Et pour ceux qui ont besoin de l'entendre, j'aimerais que tous ceux qui ont vécu une guérison dans votre cœur par la main divine de Dieu, vous puissiez crier « Amen » pour les encourager, et vous puissiez applaudir le Dieu miraculeux. Plusieurs invités qu'on va avoir pendant l'année 2007, des prédicateurs qui sont déjà, qu'on a réservé des invités. Et une que j'aimerais, que je crois qu'on va être capable d'avoir et qu'on va inviter, elle est venue à Longueuil l'an dernier à l'église baptiste tout près d'ici. Et j'ai lu des articles sur elle, et j'ai lu un livre qu'elle a écrit, j'ai été tellement touché, on fait des démarches pour essayer de l'inviter, puis je crois qu'elle va accepter d'être ici avec nous. Elle s'appelle Kim Fook, et la photo de cette jeune fille-là, lorsqu'elle était enfant, a fait le tour du monde, ça apparaît à l'écran. C'est une jeune fille qui, lorsqu'elle était enfant au Vietnam, pendant le conflit du Vietnam, le 8 juin 72, à Trang Bang au Vietnam, dans un village, il y a eu une attaque de napalm des Américains. Et lorsqu'elle court, la petite enfant nue que vous voyez à l'extrême, c'est elle. Et elle a, le napalm était comme littéralement une bombe de feu qui est descendue sur le visage entier, brûlée. Elle n'était pas nue originellement. Brûlée tous ses vêtements, et dans les secondes qui ont suivi, sa peau a commencé à décoller d'elle. Cette photo a gagné un prix Pulitzer et a fait le tour du monde, puis en est venu à capturer un conflit qui n'avait aucun sens et un conflit qui a révolté une génération entière. Et alors que cet enfant-là, après cette photo-là, dans son livre, elle explique qu'après cette photo-là, elle s'est rendue à un endroit. Quelques minutes plus tard, elle s'est effondrée, elle était dans un coma pendant des mois. Elle était brûlée sur la majorité, la large partie, une large portion de son corps. Vous avez une photo d'elle adulte, alors que vous voyez son corps qui est brûlé à la grandeur et l'enfant qu'elle porte maintenant. Et à ce moment-là, lorsqu'elle a grandi, adolescence, c'est des centaines d'opérations. Et dans sa biographie, elle raconte qu'elle a passé des milliers milliers d'heures, des centaines et centaines de jours, des années complètes dans la souffrance, à souffrir des nuits entières, des journées entières de son corps qui brûlait littéralement. Mais elle écrit d'une manière qui est saisissante que les brûlures physiques n'étaient rien en comparaison aux brûlures qui brûlaient dans son âme. Les brûlures de haine qu'elle avait. Elle avait une flamme de haine, de colère, de révolte pour le corps qu'elle avait maintenant, pour les, envers son pays, envers toutes sortes de gens, envers la guerre, envers les Américains, envers le gouvernement, envers tout ça. Et ça la consumait. Elle a dit, c'est difficile pour les gens d'imaginer, ma douleur physique n'était rien en comparaison à la brûlure qu'il y avait dans mon âme que je croyais. Elle a dit qu'elle était, elle a combattu pendant longtemps des pensées suicidaires, non pas à cause de son corps, mais à cause qu'elle n'avait pas une journée de bonheur dans la vie à cause de la haine qui brûlait en elle. Jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qui, petit à petit, lui a partagé la foi chrétienne, lui a raconté son témoignage, et cette dame en est venue, au bout d'elle-même, à accepter Jésus-Christ en pensant simplement sur la conviction de son besoin à elle d'être pardonnée par Dieu. Elle ne savait pas tout ce que Dieu était pour faire en elle. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu une œuvre de guérison qui s'est faite dans son corps, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, de pardon, de relâchement qui a commencé à bouleverser les gens autour d'elle. Elle s'est mise à vivre du pardon. Toutes sortes de signes que pour vous ne voudraient rien dire. Elle s'est mise à dormir paisiblement. Elle s'est mise à se prendre, à se surprendre, à rire, à éclater de rire. Elle s'est mise à se surprendre, à parler en termes de pardon. Elle s'est mise à penser en termes de même ce qui m'est arrivé pourrait devenir utilisé de la part de Dieu, je pourrais devenir quelqu'un qui parlerait de paix et parlerait de pardon. Et les années ont passé et aujourd'hui, elle est une ambassadrice. Puis je vous lis une portion d'un article qui était sur elle sur Internet. Au mois de novembre 97, Kim a été nommée ambassadrice de bonne volonté à l'UNESCO. Plus tôt, en 97, elle a fondé la Fondation Kim Fook à Chicago afin d'aider les victimes innocentes de la guerre. Ce qui est probablement le plus étonnant par rapport à Kim Fook, l'article de journal dit ceci, est la paix qui radie de sa personne. Elle n'est pas en colère, elle n'est plus amère contre personne, ni le gouvernement, ni ceux qui l'ont ainsi mutilée. À vrai dire, la plus grande passion de Kim est la guérison. En 96, elle a voyagé aux États-Unis afin de rencontrer les médecins qui l'avaient opéré à Saïgon. Au jour du souvenir de cette même année, elle est allée aux États-Unis, à Washington, et elle a pris la parole à Washington, D.C., au monument commémoratif des anciens combattants du Vietnam. Son message exprimait le besoin pour la guérison ainsi que la réconciliation pour tous ceux qui avaient été impliqués dans la guerre. Qu'est-ce qui rend tout ça possible? Ben, dit l'article de journal. Peut-être que la question la plus appropriée serait « Qui rend tout ça possible? » Et la réponse est Dieu. Et lorsqu'elle s'est adressée à l'ONU, elle a terminé son discours à l'ONU avec ces mots. « Je vais passer ma vie à voyager pour annoncer à chaque âme troublée et à chaque cœur tourmenté que la foi en Jésus-Christ a guéri ma vie et m'a donné la capacité d'aimer et de pardonner. Je veux annoncer à chaque homme ou femme dans ce lieu, quel que soit ce qui a pris place dans votre cœur, que l'onction de Dieu est ici ce soir et que le Seigneur, dans son onction, est capable de guérir des cœurs brisés et que ceux qui le croient crient un amen d'espoir et de confiance dans le Seigneur ce soir. Allez, applaudissez-le, il y a juste lui qui peut le faire. Onction. Guérir les cœurs. L'onction afin de consoler, libérer les captifs, et l'onction afin que nous puissions communiquer une bonne nouvelle. L'Éternel m'a donné une onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont abattus, afin que ceux qui sont dans le deuil puissent trouver une huile de joie au lieu de la tristesse, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous aurez une double portion au lieu de la honte et au lieu de la confusion. Ils seront joyeux de leur part. Littéralement, ils seront heureux de leur sort. Ils seront satisfaits de leur héritage. Ils seront en paix avec ce qu'ils ont. Je vais vous dire que l'onction du Saint-Esprit veut pas seulement, il peut pas seulement guérir notre passé, mais guérir notre perspective. Pas seulement guérir nos pensées, mais guérir nos paroles. Il veut faire de nous des gens capables de communiquer des bonnes nouvelles. C'est une attitude. L'onction du Saint-Esprit peut rendre un être humain capable de communiquer différemment. D'avoir un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. J'aimerais vous dire que ce qui va attirer comme un aimant absolument irrésistible des milliers d'âmes à Jésus-Christ, c'est des hommes et des femmes qui ont traversé des vallées d'épreuves, mais qui en sortent capables de parler, de communiquer une bonne nouvelle. Capables, revêtus d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Capables des gens qui sont contents de leur sort. Qui ne sont pas continuellement dans la confusion et dans l'envie et la jalousie de tout ce que j'ai pas et dans la colère de tout ce que j'ai pas eu, puis ce qu'on n'a pas donné, puis ce que j'aurais dû avoir, puis ce que j'avais le droit d'avoir. Il y a quelque chose en eux qui est au-delà de cet esprit qui est si prédominant autour de nous, revendicateur, qui est tout le temps désespéré de ce qu'il n'a pas. Il y a une onction, il y a une double portion qui fait que je suis bien avec ce que j'ai. Je suis reconnaissant de ce que j'ai. Je suis bien avec ce que Dieu m'a donné. Je suis heureux de mon héritage sur cette terre. Et mon vêtement favori, ce que je porte par l'onction du Saint-Esprit. Dites à la personne près de vous, habille-toi comme du monde. Dites ça à la personne près de vous. Je suis pas en train de parler de vêtements, je parle pas de Calvin Klein et d'Hugo Boss. Mais on a besoin d'un croyant et de croyant qui est au-delà de ta tuque, ton foulard, tes mitaines, tes bottes, tes claques. Tu sors le matin avec le vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Hallelujah! Voici, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu, dit Hébreu. Il a dit au Fils, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Il y a un portrait ici d'un croyant qui est enflammé pour Dieu et qui a cette caractéristique que Dieu veut pour chaque croyant. Il aime la justice et il haït l'iniquité. Mais suivez-moi bien. Moi, j'ai vu pendant des années un certain christianisme qui, au nom de haïr le péché, a cette espèce d'attitude misérable. Cette attitude condamnatrice, hautaine, froide et cynique. J'ai vu cette église qui, nous on haït le péché, puis le monde, puis les pécheurs, puis les païens. Cette attitude de froideur de cœur et de jugement, puis je t'ai pogné, et de loi. Et la pensée biblique est celle-ci. Voici, j'ai mis une huile sur toi. Voici, j'ai fait de toi une flamme de feu. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et voici ce qui a été le résultat de l'onction. Pas une attitude amère, pas un cœur de jugement, pas une église recroquevillée sur elle-même, qui juge les uns les autres, qui se pogne en défaut. Non, non, non. Il a fait ses serviteurs des flammes de feu. Ils ont aimé la justice, haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, il parle de Christ et parle de nous, et Christ en nous. Ton Dieu t'a oint avec une huile, avec une onction d'allégresse au-dessus de celle qui t'entoure. Au-dessus de la moyenne, au-dessus de tes contemporains, au-dessus de l'esprit de ce monde, au-dessus des circonstances. Une onction, une huile de joie, de satisfaction qui me rend capable de parler à mes enfants, à mon mari, à ma femme, à mes amis, avec des paroles qui leur font du bien. Une huile de joie qui me rend capable d'être au-dessus, pas par prétention, mais par l'onction de Dieu, au-dessus du marasme et de la grisaille qui m'entoure, et de communiquer des paroles de vie aux gens qui sont autour. Donc, quelqu'un va dire amen. Dites à la personne près de vous, j'aimerais assez ça que tu me parles selon l'onction. Dites ça à la personne près de vous. Que tu me parles selon le Seigneur. L'onction, une huile d'allégresse, une huile de joie. Le Seigneur m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin mon oreille pour que je l'écoute. Le Seigneur m'a oint l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. C'est un portrait de chacun d'entre nous en 2007 qui irait dans la présence de Dieu et qui reçoive une onction qui me rend capable de parler différemment, de communiquer, qui m'a donné une oreille de disciple, puis m'a donné une onction. Je ne me suis pas retiré, c'est ma responsabilité. Je ne suis pas seulement appelé à être sauvé et né de nouveau, je suis appelé à communiquer des bonnes nouvelles et des paroles de grâce à tous ceux que Dieu m'a confiés. Alors, je ne me retirerai pas, je vais rester là. Et Seigneur, tu vas oindre mes oreilles. Tu vas m'apprendre à entendre ce que toi, tu veux me dire et à parler. Dieu, donne-moi l'oreille d'un disciple qui va avoir une parole qui soutient les gens qui sont abattus. L'Église ne sera jamais assez grande. L'Église ne sera jamais assez grande pour accueillir les multitudes qui seraient attirées, non pas par un programme, une méthode ou un leader, mais attirées par des hommes et des femmes qui sont remplis d'un esprit différent. Une huile d'allégresse et de bonnes nouvelles. Que dans ton lieu de travail, à l'école, dans ta famille, où tu es, tu vis les choses que les gens vivent. Les gens savent que tu vis des épreuves, mais il y a quelque chose en toi. Une huile qui t'élève au-dessus et qui te rend capable de communiquer des bonnes paroles. J'aime aller me promener dans les bureaux, m'en aller à mon bureau et entendre. J'aime ça entendre les éclats de rire dans les bureaux. Il y a une gang de personnes ici à Nouvelle-Vie qui aiment rire, qui ont un don d'éclat de rire et de rire ensemble. Et cette semaine, je traversais, puis c'était quasiment, il fallait quasiment appeler la sécurité. Je sais pas ce qui se passait dans l'entrée, mais ça riait, ça riait. Puis je me suis penché pour voir et j'ai vécu cette expérience spirituelle. Je regardais tout le groupe qui était là, puis ça riait, puis ça s'amusait, puis ça riait. Des fois, ils travaillent, mais là, ça riait. Et... ça riait. Moi, j'étais là, je regardais par la fenêtre dans la porte, puis j'étais extrêmement ému. Parce que les gens qui étaient là, c'était pas des gens qui avaient des vies faciles. Pas des gens qui vivaient une vie sur des pétales de roses. Il y avait une femme qui était là, que l'an dernier, son mari est décédé comme ça, puis qui élève ses enfants toute seule maintenant. Puis elle était là avec une joie, pas fake, pas une joie bizarre, et, non, une joie qui est indescriptible et impossible en dehors de l'onction de Dieu. Il a parlé avec différentes personnes qui étaient là. Avec une maman qui était là, dont les enfants adultes ont vécu tellement de tragédies qu'elle pourrait être écrasée, recroquevillée sur elle-même, mais elle était là, puis elle riait. Puis elle parlait, puis ils échangeaient ensemble. Il y avait un homme qui était là, qui, il y a quelques années, a vécu un drame dans sa vie qui mettait fin à ce moment-là. Il pensait à son ministère, a été abandonné, il s'est retrouvé seul au milieu de la tourmente, et il était là, restauré par Dieu, fortifié par Dieu, et des paroles de vie les uns aux autres, et de sourire et de paix. J'aimerais vous dire que le peuple chrétien n'est pas un peuple qui a été sans meurtrissure, sans blessure, sans attaque ou sans échec, mais nous sommes un peuple qui, sous l'onction de Dieu, sommes rendus capables d'une huile de joie qui est au-dessus de ce que ce monde nous a fait subir et qui nous rend capables de nous soutenir avec des paroles de vie les uns pour les autres. L'onction, alors que les musiciens s'approchent, est une onction où Dieu m'a envoyé, où Dieu veut guérir ce qui est captif et consoler ceux qui sont captifs, nous rendre capables de communiquer une bonne nouvelle, que nous allons nous parler les uns les autres, non pas selon l'impatience. Je pense à tous les parents qui sont ici. Dans un instant, je vais faire un appel. Moi, je vais m'avancer ce soir comme parent et dire, Seigneur, aide-moi. En 2007, lorsque je parle à mes enfants, lorsque je parle à mon fils, lorsque je parle à ma fille, lorsque je parle à mon épouse, Seigneur, aide-moi. Rends-moi capable de parler, non pas selon mon impatience du moment, mais parler selon ton inspiration. Non pas selon ma personnalité, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, mes parents étaient comme ça. Non, selon ta parole. Non pas selon mes frayeurs, mes peurs, mais selon ta fidélité. Non pas selon mes colères, mais selon ta capacité à toi que tu nous donnes. Non pas selon les circonstances, mais selon une nouvelle confiance. Non selon mes échecs. Les gens qui sont ici ce soir, des jeunes couples, des gens de tous les âges, j'avais vécu des choses traumatiques et difficiles, puis il y a un désir de pardonner, il y a un désir d'avancer, mais même plus que ça, Dieu veut vous donner une onction où vous allez être capable de vous communiquer. Celle qui a été offensée, celui qui a offensé, celui qui a été offensé, celle qui a offensé, capable de se communiquer surnaturellement par l'aide de Dieu des paroles de pardon, des paroles d'encouragement, des paroles d'espoir, des paroles de force, des paroles qu'on reconstruit. Pas selon parler, non selon le brisement et la noirceur, mais selon la bonne nouvelle qui est rendue possible par l'onction du Saint-Esprit. L'onction qui nous permet de consoler, de communiquer, et une onction afin de commencer et de construire. Je n'ai pas le temps de le prêcher, ça va être le prochain message. Mais l'Éternel m'a donné l'onction, la dernière diapo, la 29. L'Éternel m'a donné l'onction pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, pour donner de la splendeur au lieu des cendres. Et ils rebâtiront là où il n'y avait que des ruines, et ils relèveront ce qui avait été dévastation depuis plusieurs générations. Il y a quelques semaines, lorsque Philippe Jorret était ici, le pasteur Philippe Jorret qui va venir se joindre à nous au mois de juin, il est super à la maison un soir et puis... Il a demandé quelque chose, ça nous a un peu décontenancé sur le coup, Chantal et moi. Il a dit, racontez-nous votre témoignage. Comment vous êtes venu au Seigneur? Des années qui peuvent passer sans que je, à moins que ce soit des gens que je témoigne, mais souvent je ne raconte pas un témoignage. Dans mon cas, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1979. Alors, j'ai été 20 ans, 25 ans et plus, 27 ans, 28 ans de vie chrétienne. Ça fait tellement d'années, je fais plus d'années chrétiens que d'années non chrétiens. Et alors qu'il me demandait ça, il commençait à raconter mon témoignage, j'ai été surpris et béni. Alors que je racontais mon témoignage, j'étais vraiment touché. Quasiment donné ma vie au Seigneur une autre fois, j'étais vraiment touché. J'étais juste touché. Lorsque Chantal s'est mis à raconter son témoignage, j'étais juste touché. Juste touché par ce que Dieu a fait. Je le racontais, puis j'étais touché. On était touchés ensemble simplement de comment est-ce que ce qui avait été présent de génération en génération, qui avait juste été dévastation de génération en génération dans ma famille, s'est arrêté. A été arrêté. Il y a une ligne de sang qui arrête ici. Et maintenant, il y a une vie nouvelle qui est de l'autre côté. La capacité divine de rebâtir. Raconter à Philippe et à son épouse, à Isabelle, ce qui était tout ce que j'avais, tout ce qu'on avait connu. La folie de ce que nous avions connu. Ce n'est pas des choses qu'on parle souvent, puis on a beaucoup de pudeur, parce que on a des parents qui sont encore vivants. Mais grandissant dans une maison de haine, de colère, de violence, de mensonges, tout le monde mentait. Tout le monde trompait leur femme. Tout le monde trompait. Tout le monde frappait. Toutes les oncles, mon père, ses frères frappaient. Tout le monde buvait. Tout le monde agissait comme des animaux. Tout le monde faisait des choses que je voudrais, mais que je ne peux même pas dire publiquement. Tout le monde, et grandir là-dedans, et humainement, tu es tellement convaincu. Ce serait tellement logique humainement, dans une certaine logique qui ne connaît pas la nature humaine, ce serait tellement logique que j'ai tellement haï ce que j'ai vu, que tu vas fuir loin de ça. Mais le cycle infernal de devenir ce que tu as haï, de le perpétuer. Tu as haï la boisson, puis à partir de 11 ans, tu te mets à boire toi-même. Tu as haï la violence, puis dès ton jeune âge, ça brûle tellement fort en toi que c'est comme ça que tu réagis à tout. Tu as haï la cruauté et l'injustice, mais tu deviens quelqu'un qui collecte, puis qui fait des actes violents. Puis tu dégoûtes du monde avec qui tu te retrouves, mais tu connais rien d'autre que ça. Tu as haï le désespoir dans lequel tu as grandi, mais après ça, c'est ça qui habite en toi, l'absolu, le sentiment que jamais rien qui pourra changer. Ça va rester comme ça. Novembre 79, je me retrouve assis dans une salle à l'église. Ma mère avait connu une chrétienne, elle lui parle, lui a parlé de Dieu. Ma mère est une bonne personne et puis elle sentait pas son besoin de Dieu, mais elle s'est dit que ça serait bon pour mon fils. Mon gars, lui, dit ça. Lui, j'étais à ce moment-là dans un tourbillon de violence, puis de crimes, puis il y avait des feux en moi que j'étais pas capable d'éteindre. De violence et de boissons et de boire et de faire des promesses que tu tiens pas. Et là, le gouffre dans lequel ça te projette de me coucher le soir à 3h du matin pour avoir, depuis 4h l'après-midi, bu à toute la... Là, il est 3h du matin, le party est fini, tout le monde est couché. Puis de m'étendre le soir à 3h du matin, je devrais juste tomber mort de fatigue. Mais il y a un feu qui brûle en dedans, me relever, partir à pied pour me rendre à after hour pour boire de 3 à 6h, 7h le matin, être retrouvé sur le bord du chemin parce que je suis tombé. Je me sens retourner chez nous à 16 ans. Je m'en retourne chez nous en marchant sur le bord du chemin, puis je tombe, je m'endors sur le bord du chemin, les autos passent, puis un père de famille qui s'en va déjeuner avec ses enfants qui me voit là, puis il me ramasse, puis me fait parler, puis je suis tout la face tout déchirée, j'étais dans une bataille ou quoi que ce soit. D'arriver à la maison, puis lorsque tu reviens à toi-même de réaliser ça n'a pas d'allure, ça ne peut pas continuer comme ça, mais d'y être le lendemain. Lorsque ma mère fait connaître cette famille chrétienne-là, et puis m'invite à l'église un soir dans une petite église à Saint-Eustache. Il y a toutes sortes de choses tellement laides, tellement stupides qui habitent en nous à ce moment-là. Moi, je disais à Philippe, c'est une habitude qui était fou, mais dans le monde de bataille et de violence dans lequel j'ai grandi, moi, tous les hommes que je rencontrais, tout pendant des années de ma vie, tous les hommes que je rencontrais, à chaque fois que je rencontrais un homme, dans l'autobus, j'étais assis dans l'autobus, il y avait plein de gars autour de moi, dans l'autobus, je ne connais pas des étrangers, ou dans un bar ou n'importe où, tous les hommes que je rencontrais, je regardais, puis je mesurais, chaque homme que je rencontrais, je regardais me mesurer, voir, lui, je serais capable de le planter. Lui, je serais capable, lui, je serais capable, lui, je serais capable, lui, je serais capable. Lui, je suis pas sûr. je n'ai reçu bien plus que je n'ai donné des volets. C'est toujours comme ça. Mais je suis arrivé à l'église ce soir-là, et Dieu sait comment orchestrer toutes choses. Le prédicateur qui prêchait ce soir-là, c'est le pasteur Sam Lecomte. Il avait enlevé sa chemise, il avait chaud. Il avait une chemise à manches courtes, il avait des tatous sur ses bras, 230 livres dans une bonne journée après sa diète et son jeûne. Puis je le regardais puis je me disais, lui, je pense que je ne serais pas capable de faire grand-chose avec. Puis s'il met à parler, je ne connaissais rien à la Bible, puis je ne connaissais rien à l'onction. Mais ce soir-là, alors qu'il s'est mis à parler, aujourd'hui, je réalise, l'onction m'a transfixé, m'a arrêté. Une arrestation divine, j'ai été mis sous arrestation. J'étais assis là, puis je l'écoutais parler, puis il racontait l'histoire. Ça m'a pris du temps avant de comprendre, parce qu'il racontait l'histoire d'un bandit, puis il racontait l'histoire du larron à la croix. Mais je savais pas, je pensais que c'était une histoire moderne, la manière qu'il comptait, le gars était dans le crime, etc., etc., puis il était tellement enragé, puis je disais, ben oui, c'est pareil comme nous autres, puis j'écoutais, puis j'écoutais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, puis il se fait arrêter, puis il se fait pogner, puis la sentence est pire, puis est pire, puis est pire. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était une histoire de l'ancien temps, parce qu'il dit, là, puis là, il s'est retrouvé, en ce temps-là, la condamnation, c'était la croix, au lieu de la chaise électrique ou de la prison à perpétuité, il était mis sur une croix, puis là, il se retrouve à côté du Seigneur, puis là, j'ai réalisé que c'était une histoire de la Bible, puis il dit, il était à côté du Seigneur, puis même alors qu'il était en train de mourir asphyxié, il s'étouffe dans son sein, en train de crever là, il se revient d'abord puis il se met à blasphémer, puis à sacrer, puis à se moquer de Dieu. Puis moi, je trouvais ça normal, j'étais assis là, puis je me disais, ben oui, c'est ça qu'on ferait, c'est ça que tous les gars que je connais feront, c'est ça qu'on ferait, on n'est pas mieux que ça, on ferait rien de différent de ça. Puis là, tout à coup, le gars est dans son dernier souffle, t'es en train d'agoniser, t'es en train de crever là, puis il se tourne vers le Seigneur, puis il dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume, en voulant dire, pardonne-moi, je t'arrête de mourir. Et moi, assis à ma place, j'étais tellement intéressé par l'histoire, je me suis dit, tabarnouche, il va se faire planter, lui. Le Seigneur va dire, toi, moi, rapace, toute ta vie à faire le mal, toute ta vie contre moi, toute ta vie à sacrer contre moi, puis là, tu crèves, et puis t'appelles à moi, crève pour de bon. Est-ce que vous comprenez? Combien sont contents que c'est pas moi qui étais le Seigneur? L'Esprit Saint est descendu sur moi lorsque le pasteur a dit, le Seigneur a vu la sincérité de son cœur. Puis il dit, je te pardonne aujourd'hui, tu vas être avec moi. Je me suis assis sur le bout de ma chaise. Il dit, ça se pourrait-tu que tout cet enfer-là pourrait s'arrêter? Ça se pourrait-tu qu'un être humain peut rebâtir? Ça se pourrait-tu qu'il arrête de faire le mal qu'on y a fait? Ça se pourrait-tu qu'il soit capable d'être un homme qu'autrement il ne pourrait jamais être? Ça se pourrait-tu, Seigneur? L'aventure sous l'onction du Saint-Esprit a commencé en 1979. Et chaque année a été plus merveilleuse que l'autre. Et Dieu a tracé une ligne de génération en génération. Il y avait juste eu. Mon père est décédé à 52 ans, alcoolique, son père à 43. Des hommes violents, des hommes adultères, des hommes, certains d'entre eux, qui ont criminels, des hommes emprisonnés, des hommes fraudeurs, des hommes méchants, des batteurs de femmes et d'enfants. Mais la ligne s'arrête. Et il dit, voici. Je te rendrai capable de bâtir, de commencer quelque chose. Tu vas prendre ce qui était des ruines et tu vas en faire quelque chose qui va être à ma gloire, à la splendeur de Dieu. Je veux dire à chaque homme et à chaque femme ici, je vais être capable de faire de toi un père, faire de toi un homme, faire de toi une femme, faire de toi un être humain qui va être différent, que tout ce que ton couple peut être différent que ce qui a été avant. Ta vie peut être différente parce que l'onction de Dieu donne à chaque être humain un nouveau commencement. Et ceux qui le croient, disent un dernier grand amen ce soir et donnez un 10 secondes d'ovation pour l'onction de Dieu. Alléluia. 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 Levons-nous ensemble en sa présence. Je vais inviter Dan à nous conduire ce soir. Et voici mon appel est simple. Je vais appeler tous ceux qui ont faim et soif de l'onction à s'approcher. Je vais vous appeler. Ceux d'entre vous qui disent, je m'approche parce que j'ai besoin de l'onction qui console et qui libère les captifs. Il y a des consolations surnaturelles qui ont besoin de prendre place en moi. Il y a des chaînes dans ma vie dont j'ai besoin d'être délivré. Il y a des consolations et des captivités en moi que j'ai besoin du consolateur. La tête, le cœur est entièrement malade et n'a pas été guéri par l'onction. Mais ce soir, je viens sous l'onction de Dieu. Je viens mettre ma confiance en Dieu. Si vous êtes ici, vous dites, j'ai besoin de cette consolation divine. J'ai besoin de cette libération divine. Je vous demande de sortir. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans les péchés terribles. Vous pouvez être un leader dans l'église. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de poste ce soir. Il y a juste des hommes et des femmes qui ont soif de l'onction. J'aimerais vous inviter à vous approcher. Et si vous êtes ici, j'aimerais inviter tous les parents, tous les couples mariés à s'approcher et dire, moi, je veux communiquer selon l'onction. Je veux que Dieu m'apprenne à parler, non selon mon impatience, mais selon l'inspiration qu'il va me donner. Je veux une huile de joie au-dessus de ce que j'ai été, au-dessus de la grisaille, au-dessus du marasme, du négativisme, du cynisme, de la méfiance qui m'entoure. Je veux devenir quelqu'un qui parle selon la paix à ses fils et à ses filles, à mon mari et à ma femme. Je veux parler selon la paix que Dieu me donne et la joie que Dieu me donne et la foi que Dieu me donne et la vision que Dieu me donne. Approchez-vous tout près parce que tout le monde va s'avancer ce soir. Tous les parents qui s'avancent. En 2007, je vais parler différemment. Bien-aimé, je suis un père de famille qui va se mettre debout avec vous ce soir pour dire en 2017, aide-moi, Seigneur. Je veux parler à David Sam, je veux parler à Elisabeth, je veux parler aux gens autour de moi, selon l'Esprit de Dieu, selon la bonne nouvelle que Dieu me donne. Seigneur, j'ai besoin de bâtir. Mon couple a besoin d'être bâti. Ma vie a besoin de... Je vais arrêter ce qui a été de génération en génération. Je vais arrêter la ligne dans la ligne du temps. Le sang du Seigneur trace une ligne. L'onction du Seigneur va me rendre capable de bâtir là où il y avait juste des ruines de génération en génération. Je vais bâtir, Seigneur. Puis tu veux faire de moi un pilier, un térébinthe, un arbre avec des racines profondes dans la maison de Dieu. Et celle qui était dans le deuil, celui qui était dans la honte est devenu un sujet de gloire et de splendeur pour le Seigneur. Alors que vous vous avancez de partout à travers ce lieu, commencez à lever vos voix. L'équipe de prière va se promener, commencer à aller prier avec vous. On va imposer les mains à chaque personne ici. J'invite Dan de nous conduire. Et conduis-nous simplement dans l'onction que le Seigneur te donne. Toute l'équipe d'adoration, Dan, Pasteur et toute l'équipe vont nous conduire et nous allons chercher l'onction de Dieu. Avez-vous cette vision avec moi de cœurs qui sont consolés? De chaînes qui tombent par terre. Avez-vous cette vision avec moi de gens qui se parlent différemment, d'une église où les gens se parlent avec encouragement, des parents se parlent avec encouragement, des époux et des épouses qui avant avaient juste des paroles dures, ou froides, ou indifférentes, ou de reproches l'un pour l'autre, qui leur parlent différemment, parlent avec espoir et avec joie, une huile de joie au-delà de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Le Seigneur m'a donné une oreille pour entendre, afin de secourir avec la parole ceux qui ont besoin d'être relevés. Et Seigneur, tu vas me permettre, lorsqu'il y avait juste des cendres, il y avait juste de la destruction, de rebâtir quelque chose de bon. Hallelujah.
Voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Oh, voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir, mon roi, vois mon désir de te servir. Je te donne, je te donne tous mes rêves. Vois mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.